Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue, vous êtes ici, chez vous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour découvrir des merveilles de la musique sacrée et continuer ensemble ce que nous avions commencé la semaine dernière à propos de l'une des plus extraordinaires du répertoire baroque et du répertoire de Noël. J'ai nommé La Messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier, une des plus belles compositions de ce répertoire. Aujourd'hui très connue, un tube, mais qui est longtemps tombé dans l'oubli comme toute la production de l'œuvre de Marc-Antoine Charpentier, qui est né en Île-de-France en 1643 et mort à Paris le 24 février 1704, immense compositeur, hélas, peut-être pour lui, ce qui expliquait son oubli contemporain du grand maître de musique du roi Jean-Baptiste Lully, qui a fait que, peut-être par pudeur, peut-être par crainte également de ce surintendant de la musique, eh bien, Marc-Antoine Charpentier a voulu éviter. Et c'est un compositeur qui est resté dans une très très grande confidentialité. En fait, il est resté dans la confidentialité de sa mort jusqu'à sa redécouverte au milieu du XXe siècle, dites-vous, avec l'utilisation de son Tédéum pour le générique de l'Eurovision. Et c'est là où on a redécouvert l'extraordinaire complexité, l'extraordinaire richesse de ce compositeur merveilleux qui a écrit de si belles pages de la musique et dont il ne faut pas se lasser d'écouter et de découvrir et de diffuser. Voilà donc pourquoi je voulais faire partager avec vous cette messe. Il y a également une autre raison plus personnelle et plus mercantile, je vous l'avoue. Il est vrai que je dirigerai cette messe le 14 décembre prochain à la Basilique Saint-Sernin, 20h30. Prenez vos places sur le site de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. On aura le plaisir de vous jouer également d'autres choses avec tous les autres chœurs de la Schola. Si vous êtes toulousain ou de la région toulousaine, venez donc assister à ce concert exceptionnel. Voilà donc le 14 décembre, 20h30 à la Basilique Saint-Sernin. J'espère que vos agendas ont pris date de cet événement-là. Quant à moi, je vais donc continuer à vous parler de cette messe extraordinaire. Alors, il est vrai que la semaine dernière, eh bien, comme je vous ai présenté des gros morceaux de cette messe-là, notamment le Gloria et le Credo, j'ai pas pu beaucoup vous en parler. C'est un petit peu dommage parce que c'est une messe qui nécessite quand même qu'on s'attarde sur dessus. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a beaucoup de choses. C'est une messe, comme je vous l'avais dit, qui est presque protéiforme. En fait, Marc-Antoine Charpentier s'initie un véritable exercice de style. Pourquoi ? Parce qu'il va faire de la musique savante avec tout son génie musical et en même temps, il base toute cette musique savante sur les plus extraordinaires Noël populaires que peuvent chantonner tous les Français, même de la France profonde de cette époque-là. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette messe-là, c'est que la joie de Noël est communicative et en fait, elle parle à tous. Et il y a ce côté transformation du populaire en sacré que je trouve absolument merveilleux et qui là aussi, je pense, est tout à fait valable dans le message de Noël avec quelque chose de profondément humain, de profondément populaire avec la venue du Christ, d'ailleurs qui est annoncé en premier lieu au berger, d'ailleurs on va y revenir, et ensuite quelque chose de totalement sacré, et là avec le déploiement du faste que peut faire la musique baroque, qui là est peut-être une référence à la divinité de Dieu, et je pense que ça se voit particulièrement dans cette messe-là que je vous invite donc à découvrir et redécouvrir. Aujourd'hui on va faire un tout petit saut en arrière pour commencer, avec le premier de tous les morceaux qui est Joseph est bien marié. Alors en fait, une fois que je vous l'ai dit comme ça, ça vous dit peut-être rien, alors c'est pourtant un Noël connu, mais il va servir de base, de fondement au Kyrie, au premier Kyrie que vous allez entendre dans cette messe. Alors comme on l'a écouté la semaine dernière, ce Kyrie, je vais vous en faire entendre la simple partie instrumentale. Il est vrai que Marc-Antoine Charpentier a également composé des Noëls instrumentaux, donc sans chœur, mais il y a toujours cet aspect festif, cet aspect chantonné, puisque souvent c'est sur des Noëls traditionnels, donc finalement la voix n'est jamais vraiment loin, et puis il y a cette dimension dont je vous avais parlé, notamment quand je vous avais aussi parlé de musique baroque, de dimension dansée. Il est vrai que le mouvement naturel du baroque, c'est la séduction. C'est Philippe Bossan, le fondateur du CMBV, qui l'avait dit, et je trouve que c'est assez vrai. Et lié à cela, le côté dansant qui est vraiment inhérent à cette façon de composer, en tout cas à cette époque-là. Vous imaginez bien que le roi Louis XIV danse, et forcément ce genre de musique danse avec le roi, parce que Marc-Antoine Charpentier a eu une grosse partie de sa vie dans les arcanes du pouvoir, notamment à la Sainte-Chapelle. Alors, cette messe n'a pas été composée pour la messe pour l'église, pardon, de la Sainte-Chapelle. Ça a été fait pour l'église Saint-Paul-Saint-Louis, enfin qui s'appelle aujourd'hui l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris. À l'époque, c'était simplement l'église Saint-Louis des Jésuites, et c'est là où il a décidé de faire cette messe absolument extraordinaire que je vous invite à découvrir. Voici donc le premier extrait instrumentale pardon, de cette messe avec Joseph et bien marié juste dans sa partie instrumentale pour que vous puissiez apprécier son côté dansant, joyeux et festif. Voici donc le premier Noël que propose Marc-Antoine Charpentier dans sa messe de minuit qui servira de base à son Kyrie. Peut-être un air que vous connaissez, que vous avez reconnu, Joseph est bien marié, dont vous avez ici la version la plus dépouillée puisque c'est la version instrumentale qui sert de ritournelle d'ailleurs entre les Kyrie et les Christé de cette première partie de la messe. Maintenant que nous avons revu presque la base, si j'ose dire, de la volonté de Marc-Antoine Charpentier de mêler populaire et grande musique, on va continuer dans la progression de la messe, puisque la semaine dernière, je vous avais laissé, après la production extraordinaire de ce grand credo, qui est la pièce majeure, la pièce maîtresse de cette messe extraordinaire, et là, il y a eu une petite liberté d'interprétation qu'a laissé Marc-Antoine Charpentier à ses musiciens, ou peut-être à ses successeurs qui allaient jouer et avoir la joie d'interpréter cette musique, tout simplement l'offertoire. Alors l'offertoire, il est à part dans cette messe. Pourquoi ? Parce qu'il en a tout simplement fait une proposition. Il a proposé de faire un petit Noël instrumental qui laisse l'un des thèmes les plus connu de la messe de Noël. Je vous en dis pas plus parce que naturellement votre oreille va rapidement se dresser et vous allez pouvoir chantonner avec les instrumentistes cette version absolument extraordinaire de Laissez paître vos bêtes. Alors peut-être que le titre comme ça, qui est le bon titre pourtant, ne vous dit rien, mais vous allez tout de suite le reconnaître. Puisque c'est une petite surprise et que vous allez la reconnaître, je ne vous en dis pas plus. On va écouter l'extrait, vous et moi, et puis ensuite, on va pouvoir décortiquer ensemble ce petit extrait que je trouve incroyable, ce petit bijou donc d'offertoire proposé par Marc-Antoine Charpentier aux musiciens. Laissez paître vos bêtes au milieu de cette incroyable messe de minuit. Vous aurez naturellement reconnu Venez Divin Missi. Ici, c'est le Noël traditionnel Laissez paître vos bêtes qui est interprété par l'ensemble correspondant sous la direction de Sébastien Dossé. Et je trouve cette version particulièrement incroyable à plus d'un titre. Déjà, Sébastien Dossé a voulu que ça se fasse dans le plus simple appareil. Et je trouve que Laissez paître vos bêtes, bien sûr, c'est une imprécation faite au berger. Et dans l'instrumentation choisie ici par Sébastien Dossé, il y a le flutio, le pipeau, le fifre du petit pâtre qui voit la naissance du sauveur, et ça je trouve ça extraordinaire d'avoir cette simplicité. Il y a également un autre instrument mais qui se mêle un petit peu là-dedans avec l'orgue, tout simplement le positif, le continuo, qui ici utilise des jeux plutôt aigus, et ça fait comme s'il y avait un dialogue de plusieurs flûtes et comme si les bergers se répondaient pour répandre cette bonne nouvelle. Il y a également dans cette version un aspect très dansé. Alors ici Sébastien Dossé fait le choix de ne pas faire toutes les reprises, on peut le faire un petit peu plus long et on peut également choisir de le développer instrumentalement avec notamment les violons, etc. Mais ici dans cette version que j'aime bien, c'est le côté festif, le côté pâtre de Noël, petit berger dans la campagne, que je trouve assez extraordinaire. Et c'est là aussi où il faut être attentif à l'instrumentation quand on propose de faire cette œuvre, et notamment de faire ça avec des instruments d'époque. Alors aujourd'hui, c'est presque normal de le proposer, mais dites-vous bien qu'il y a encore 30-40 ans, quand on a redécouvert tout ce répertoire baroque, eh bien on faisait ça avec des flûtes modernes, ce qui laissait peut-être un petit peu de côté ce côté fifre, ce côté un petit peu festif que l'on a ici si bien rendu. C'est pour ça que je fais ici un petit hommage à tous les gens qui ont travaillé pour faire en sorte que les instruments baroques, les anciens ou les copies d'anciens, soient remis au goût du jour pour que nous ayons le son dans son jus de l'époque, et puis le son qui était vraiment la volonté du compositeur d'avoir ce type de sonorité pour évoquer quelque chose. Et ici, c'est particulièrement flagrant, prégnant, avec ce petit rappel avec les bergers que je trouve extraordinaire. Ça ne veut pas dire que toutes les autres versions qui sont faites avec d'autres instrumentations ne sont pas valables, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir ces comparatifs-là. D'ailleurs, vous pouvez vous-même faire des comparaisons, mais je trouve que la flûte ici apporte quelque chose de tout à fait festif et tout à fait dans l'esprit de Noël. Voilà donc pour ces premiers extraits purement instrumentaux qui continuent d'ailleurs la messe de minuit. Alors quand j'ai dit que c'était une liberté laissée par Charpentier, en fait, il a mis en annexe cet offertoire-là. Il faut savoir qu'à l'époque, les propositions musicales étaient ça dépendait qui était là à la messe, qui était là pour les chanteurs, pour les instrumentistes. Et en fait, sauf si on était bien entendu à Versailles, à la cour du roi avec les 24 violons du roi, eh bien, c'était compliqué d'avoir souvent beaucoup d'instrumentistes. Alors, il est vrai que souvent, les messes sont assez dépouillées. C'est notamment le cas de cette messe-ci, qui propose une instrumentation relativement simple entre les archers, qui sont pas très nombreux, les flûtes, et bien entendu, la basse continue. Bien entendu, ça peut s'étoffer. On peut ajouter un clavecin pour les aspects un petit peu plus sautillants. On pourra notamment l'évoquer pour le sanctus tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui est assez ramassé, et qui, je trouve, est assez intéressant parce que ça donne l'aspect confidentiel aussi que peut avoir la messe de minuit. La messe de minuit, c'est pas quelque chose de trop triomphal. C'est vrai qu'au début, presque on doute, on est au milieu de la nuit, et puis on se demande ce qui se passe. Et avant qu'on sache que les anges chantent Gloria in excelsis Deo et qu'on se dise vraiment quelque chose d'extraordinaire s'est passé, eh bien on est dans la noirceur de la nuit. Et il est vrai que d'avoir ces petits pipeaux qui éclairent et qui éclatent dans la nuit comme ça, ça donne déjà un avant-goût de la joie de Noël que je trouve extraordinaire. On va donc poursuivre notre aventure dans cette messe de minuit extraordinaire avec la suite de la messe, tout simplement, le Sanctus. N'oubliez pas que je dis Sanctus et non Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, car la prononciation se fait à la gallicane. N'oubliez pas que Louis XIV avait eu cette volonté extrêmement farouche de s'opposer au pouvoir papal et avait cette volonté d'imposer dans tout le pays de France et pour rayonner cette culture française avec cette prononciation particulière du latin qui, là aussi, permettait d'asseoir la réputation du souverain et de sa musique. C'est pour ça que nous avons cette sonorité si particulière, baroque, que nous retrouvons uniquement dans le pays de la France. Hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir eu cette spécificité nationale qui s'est peu étendue d'ailleurs, puisqu'à cette époque-là, c'était le règne et la toute-puissance de la musique italienne, que Lully, pourtant lui-même italien, a voulu contourner. Mais c'est vrai que Marc-Antoine Charpentier, lui, a été un peu filou. Il est beaucoup allé en Italie, il a travaillé là-bas, et il est vrai qu'il a une forme de musique assez italianisante, avec des petits reflets italiens qui sont perçus dans sa musique, qu'il a essayé bien entendu de contraindre toute sa vie, puisque c'était pas forcément sous les règles de Lully. Après, Lully est mort et le compositeur Charpentier a pu s'exprimer davantage, notamment par le biais d'opéra. Mais là, puisque c'est la messe qui nous intéresse, gardez à l'esprit qu'il y a cette espèce de sonorité totale et, dans la version que je vous fais entendre, le respect de la sonorité ancienne. Bien entendu, on peut l'interpréter avec la prononciation à l'italienne, mais quand vous avez cette prononciation à la française, ça permet encore une fois d'avoir la messe dans tout son jus, si j'ose dire, ce qui nous permet de l'apprécier encore plus. Quand on s'attaque au Sanctus, c'est quelque chose d'assez spécial parce que quand on a entendu les Laudamus Te, par exemple, du Gloria, ou les passages presque explosif du credo de cette même messe, effectivement, le Sanctus est presque plus confidentiel, notamment au début où on est sur un choix de rythme de danse assez lent. C'est ce qu'a choisi le compositeur et qui est tout à fait admirable. Un Sanctus presque doux et moi, j'aimerais presque dire une berceuse. Vous allez l'entendre dès les premières mesures, on est loin de quelque chose de totalement triomphal et c'est presque assez intime. Et ça, je trouve que c'était assez extraordinaire. Ensuite, on a un développement qui est là beaucoup plus joyeux et festif avec le Hosanna in excelsis Deo. Donc là, cette annonce et cette proclamation qui se fait vers le ciel et qui est ici beaucoup plus festif. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui est faite uniquement avec les solistes, beaucoup plus calme, entre les deux Hosanna. Et là, on a quelque chose de plus mystérieux, encore plus intime, comme pour ramasser la joie qui se fait autour du berceau, autour de la mangeoire. Et on repart dans un dernier élan vers le ciel avec cet Hosanna beaucoup plus festif. Très important donc d'avoir à l'idée toutes ces palettes de couleurs que va utiliser le compositeur, là aussi qui se rattache sur des Noëls traditionnels. Voici donc le Sanctus de la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier, toujours interprété bien sûr par l'ensemble correspondant sous la direction de Sébastien Dossé. Ce très festif Sanctus de la messe de minuit de Charpentier, entre joie explosive, joie contenue et berceuse presque, qui s'explique peut-être par le thème qu'a voulu choisir ici le compositeur, qui vient de ce Noël, « Ô Dieu, que n'étais-je en vie ?» Un Noël plutôt calme, plutôt apaisé. C'est un choix peut-être un peu iconoclaste de la part du compositeur d'avoir choisi quelque chose d'aussi calme et intérieur pour son Sanctus, mais ici, il sait le rendre de manière totalement festive. Alors, il est vrai que tous les passages du Hosanna, notamment, ont été bel et bien composés, bien entendu, par le compositeur, par Marc-Antoine Charpentier, et il y a cette espèce de joie qui se déroule de cette festivité populaire que je trouve ici absolument magique et extraordinaire. Et donc, une fois qu'on a entendu ce Sanctus si joyeux, eh bien vient le dernier morceau de cette messe de minuit, l'Agnus, qui est assez spécial là aussi parce que il s'agit presque d'un retour au calme. Pour moi, je l'interprète comme si le compositeur avait voulu qu'on se réendorme tous dans une forme de grande joie. Et je trouve que c'est particulièrement prégnant avec cet Agnus. Alors, il est vrai que le texte même de l'Agnus Dei, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous », c'est un petit peu ambivalent, en fait, dans cette messe de Noël. C'est vrai que c'est particulier dans cette messe festive qui parle de la venue du Sauveur, de parler aussi de sa mort, puisque l'Agneau de Dieu, c'est l'agneau sacrifié, et il y a cette espèce d'incroyable exercice de style entre la venue du Sauveur, mais c'est la venue du Sauveur qui est sacrifié. Hein, on n'oublie pas que le bois de la mangeoire, c'est aussi le bois de la croix. Et il y a toujours quelque chose d'assez ambivalent dans cette messe de minuit. Alors, La façon dont le compositeur va décider de le traiter, c'est encore une fois avec la douceur, la grande douceur, et presque comme si on voulait se réendormir auprès du nouveau-né. Il le fait avec un Noël particulier. À minuit fut fait un réveil, et là aussi, vous voyez que le but du jeu, c'est de parler de cette profondeur et de l'endormissement ou du réveil, et d'avoir cette espèce de qualité de sommeil presque qui est voulue par le compositeur. Et vous allez le voir dans cette Agnus Dei qui est profondément calme. Ici, c'est une version de concert, d'ailleurs comme la plupart des versions que vous pourrez entendre, avec notamment une distorsion de ce qu'avait voulu Marc-Antoine Charpentier. Il avait écrit 64 mesures pour cet Agnus Dei, et souvent on termine l'alternance, parce que vous avez bien compris que cette messe se faisait en alternance, d'abord instrumentale, puis avec les chœurs, de nouveau instrumentale, parfois avec les solistes, et de nouveau instrumentale. Vous avez des structures qui sont comme ça, notamment très marquantes, surtout pour le Kyrie, avec un Kyrie instrumental, premier Kyrie, ensuite instrumental, Christé, instrumental, deuxième Kyrie. Et c'est exactement la même chose avec cette Agnus Dei. Et en fait, si on en croit la partition de Charpentier, eh bien, tout simplement, il est fait instrumentaire, enfin instrumentalement, ensuite chanté, et ensuite instrumentalement. Et le Dona Nobis Pacem serait donc fait avec les instruments. Et ça, c'est un petit peu iconoclaste, parce que il est presque dans le non-dit. Et il y a cette dimension onirique. Alors la version que je vous présente, c'est une version de concert, c'est pas la version qui était faite à l'église, et donc par conséquent, le choix est fait de continuer ce dialogue, et d'avoir le Dona Nobis Pacem à la fin, qui conclura, et qui sera le dernier mot de cette messe de minuit. Je trouve que c'est aussi un très très beau message, pas ce qu'avait voulu le compositeur, mais qui est un beau message de la messe de minuit. C'est pour ça que je utilise ici cette version-là, que je trouve tout à fait d'actualité. Voici donc le Agnus Dei de la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier, toujours avec cet ensemble correspondance et Sébastien Dossé. Et c'est dans cette grande douceur et avec ce mot passem, paix, que se conclut cette messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier, un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre de la musique baroque consacrée à ce répertoire de la nativité que je vous invite à découvrir, à redécouvrir et à écouter notamment à la basilique Saint-Sernin le 14 décembre à 20h30. Prenez vos places sur le site de la Schola Cantorum, j'aurai le plaisir de le diriger pour vous avec la maîtrise, notamment les voix d'enfants qui seront là pour commencer et conclure cette messe extraordinaire. Venez donc participer à ce moment extraordinaire. Il faut faire vivre ce répertoire-là, il faut faire vivre cette musique-là. Vous voyez qu'elle est lourde de sens et en même temps profondément humaine en utilisant toute la dimension des Noëls populaires. C'est de la musique qu'il faut faire vivre, c'est notre patrimoine et c'est pour ça que nous devons l'écouter, la comprendre et la diffuser au maximum. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce tour avec Marc-Antoine Charpentier qui a signé une magnifique partition. Je vous invite à découvrir le reste de ses créations. D'ici la semaine prochaine où nous continuerons à aborder le répertoire de Noël, je vous souhaite de très très belles journées et de très beaux temps de l'Avent en musique, je l'espère. À très bientôt, prenez soin de vous.